Chers frères et sœurs, il y a quelque temps, à Noël, nous chantions l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et les soldats allemands de la Deuxième Guerre mondiale portaient sur leur ceinturon Dieu avec nous, Gott mit uns. Alors quel rapport entre l'enfant de la crèche et ce Dieu chef de guerre, garant des conquêtes militaires du Troisième Reich, faut bien dire inexistant. Il faut reconnaître autre chose, c'est que l'homme fait parfois de Dieu un peu ce qu'il veut. Il le met, si vous me permettez l'expression, un peu à toutes les sauces. Et voilà que Dieu suit les modes. Le Christ se fait le porte-drapeau de toutes les causes. Ça a été le premier des prolétaires, le premier des hippies, de la manif pour tous peut-être. Aujourd'hui, peut-être serait-il le premier des gilets jaunes ou des foulards rouges. Ou peut-être, en consonance avec une époque un peu affective, un vieux peluche qui comble nos déficits et nos manques. Chers frères et sœurs, il est capital de voir que Dieu, certes, comble les attentes du cœur de l'homme, mais que ce ne sont pas nos attentes qui le façonnent. Voilà pourquoi aujourd'hui les textes nous invitent à reconnaître qui est Dieu. Je suis Dieu et non pas homme, est-il dit dans d'autres textes. Voilà, il faut sortir d'une conception d'un Dieu sur mesure. Et j'ose le dire, il nous faut rencontrer un Dieu inconfortable. C'est le sens du texte d'Isaïe. On n'aurait peut-être pas aimé beaucoup être à sa place. Que voit le prophète ? Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé, des séraphins en dessous, qui se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint !» Et puis ça ne s'arrête pas là. Tout se met à trembler, et le prophète est très troublé par cette apparition de Dieu. Il se perçoit comme complètement décalé, complètement à côté, comme s'il n'avait pas sa place. « Je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Et puis si on regarde bien, c'est exactement le sens du texte de l'Évangile. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur, » dit saint Pierre après le miracle de la pêche. Il prend conscience, Pierre, de cette distance entre Dieu et lui. Chers frères et sœurs, il n'y aura jamais de proximité vraie avec Dieu si nous ne commençons pas par la prise de conscience de cet espace infini entre lui et nous. Et jamais on comprendra l'incarnation comme une grâce si d'emblée nous considérons que Dieu est l'un des nôtres et que cette incarnation est en quelque sorte un dû, quelque chose qui nous est dû. Quand Dieu apparaît dans l'Ancien Testament, vous le savez, c'est assez impressionnant, comme dans Isaïe aujourd'hui, ou comme devant Moïse, avec ses éclairs, ses coups de tonnerre, etc. Quand il apparaît dans le Nouveau Testament, c'est quand même plus sympathique. C'est le lavement des pieds, c'est le petit enfant de la crèche, c'est Dieu qui guérit. Mais quelle erreur de penser qu'en tout cela, Dieu se contredit. Que ces apparitions du Nouveau Testament ne valent plus. Continuons la lecture de ce Nouveau Testament. Le Christ ne se manifeste-t-il pas comme le ressuscité plein de gloire? Et si nous poursuivons la lecture, allons à l'Apocalypse. Sa tête et ses cheveux blancs comme la laine, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds d'un bronze précieux, sa voix comme la voix des grandes eaux. De sa bouche sortait un glaive acéré à deux tranchants, son visage brillait comme brille le soleil dans sa puissance. Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds. Voilà, c'est le Nouveau Testament. Autrement dit, il nous faut récupérer, aujourd'hui plus que peut-être dans aucune autre époque, le sens de la transcendance de Dieu. Pourquoi cela ? Parce que c'est notre libération qui est en cause. Sans cette distance entre Dieu et nous, nous restons finalement prisonniers de notre monde, de l'immanence, comme on dit. Et un Dieu prolongement de nos désirs, c'est un Dieu impuissant, un Dieu qui ne nous sauve pas. C'est tout le but de saint Paul dans la deuxième lecture, de présenter tel quel le Seigneur, et non pas un Christ dénaturé, et inviter à ceux à qui elle s'adresse à le garder tel que je vous l'ai annoncé, autrement c'est pour rien que vous êtes devenus croyants, leur dit-il. Alors brièvement, j'aimerais évoquer quelques lieux d'apprentissage de la transcendance de Dieu. D'abord la liturgie. On voit, c'est dans le temple qu'Isaïe reçoit cette vision. Et la liturgie, c'est ce lieu où Dieu se dit à travers les paroles, les chants, les rites, l'encens, etc. Il se dit dans toute sa transcendance et en même temps toute sa proximité. Aujourd'hui, par exemple, Isaïe nous donne les paroles du Sanctus. N'oubliez pas, n'oublions pas que la liturgie est la règle de toute prière. Notre prière personnelle doit s'enraciner dans la liturgie. Les textes du jour nous sont donnés pour les méditer. Et le mouvement même de notre prière doit être recevoir de Dieu pour nous offrir avec lui au Père, comme cela se passe dans l'Eucharistie. La liturgie, c'est aussi la règle de la dévotion et des prières personnelles. Sinon, tout cela risque de dégénérer dans des dévotions trop sentimentales, dans des Jésus qui mauve ou des pratiques trop rigides. Un autre lieu encore d'apprentissage, peut-être plus existentiel si on peut dire, c'est tous les problèmes de notre existence. Qu'est-ce que c'est qu'un problème ? Alors on va aller un peu vers le grec. Un problème, c'est une falaise. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe devant une falaise ? On avance, on avance, on avance. Et puis tout d'un coup, un mur. Soit on se casse le nez en continuant d'avancer, soit on dit « Ah, peut-être que je regarde vers le haut. » Et si possible que je l'escalade comme dans un film bien connu qui s'appelle « Tu ne tueras point ». Voilà. Eh bien, c'est cela. Quels sont les problèmes de notre existence ? C'est peut-être pas très joli de dire ça comme ça, mais finalement, autrui, le prochain, n'est-il pas bien souvent une falaise contre laquelle je me heurte ? Il a une autre sensibilité, une autre éducation, une autre histoire. Alors on peut idéaliser quand on est un petit peu loin, mais quand on se rapproche, c'est autre chose. On s'aperçoit vraiment que ce n'est pas la prolongation de mes désirs. Et alors, quelle est la seule solution ? Eh bien oui, c'est de lever les yeux. Lever les yeux vers le ciel. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, dit le Seigneur dans un psaume. Mais il pourrait dire du prochain, arrête, sache qu'il est de Dieu en parlant du prochain. Et c'est là que nous apprenons cette transcendance. Un autre obstacle aussi, eh bien, la croix, les contradictions. Pourquoi ? Parce que tout cela, ça purifie mon désir de toute puissance. Un échec, une maladie. Notre fondateur, le Père de la Mique, disait que la croix venait de trois grandes sources, de Dieu, du prochain, ou même de mon mauvais fond. Que c'est réaliste. Mes propres limites me font souffrir. Mes propres limites me rappellent que je ne suis pas tout puissant. Et qu'est-ce qui se passe encore ? Ou alors je désespère, ou alors je lève les yeux. Il n'y a pas de choix. Et à travers tout cela, peu à peu, se dessine la figure de de notre grand et bon Dieu, qui nous sauve, qui veut notre bien, oui, notre bien, mais pas toujours, mais rarement à notre manière. Enfin, un dernier lieu d'apprentissage, et l'évangile du jour nous le dit, c'est tout ce que Dieu fait pour nous. Le miracle de la pêche miraculeuse. Comment Pierre aurait-il pu réagir pour ne pas lever les yeux vers le ciel? Il aurait pu dire, ben ça tu me le devais bien Seigneur quand même, après tout ce que j'ai peiné cette nuit, c'était la moindre des choses, que toi qui es Dieu, fasse un petit quelque chose pour moi. Ou bien commercial, combien je te dois? Ou bien défiant, ce poisson, après ce prodige, il est peut-être quand même ensorcelé, je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de succès sur le marché. Voilà, ma Pierre, non, ne fait rien de tout cela. Il considère qu'il y a là une merveille, la manifestation de la grandeur et de la puissance de Dieu. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur, et l'effroi l'avait saisi. Paul va encore plus loin. Ces merveilles, ce sont celles que Dieu fait dans notre cœur. La grâce en moi n'a pas été vaine. Cette force de Dieu qui nous pénètre, qui nous transforme, qui nous travaille, qui nous transfigure et qui nous divinise, comment ne pas plier le genou devant tout cela? Je vous laisse ces magnifiques paroles de Siméon le nouveau théologien, parlant de lui-même, de cette fructification de la grâce en lui. Je vois la beauté de ta grâce et j'en contemple l'éclat. J'en reflète la lumière. Je suis saisi par sa splendeur. Et oui, je suis conduit hors de moi en pensant à moi-même. Je vois ce que j'étais et je vois ce que je suis devenu. Et je suis rempli de respect pour moi-même et de révérence et de crainte pour toi. Voilà, chers frères et sœurs, retrouvons ce sens, ce réflexe de la transcendance, être attaché à ce Dieu grand et qui se fait tout petit, à ce Christ victime mais aussi vainqueur, à ce Christ homme mais aussi Dieu, et en être les vrais et authentiques témoins. C'est cela qui lui donnera sa force de rayonnement, parce que c'est de ce Christ que les hommes ont soif. C'est ainsi qu'élevé de terre, il pourra attirer à lui tous les hommes.